pour se remettre dans le bain, et aussi pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois, je vais lire ça pour se baigner dans le style de pensée d'Épictète. Je vais lire les extraits que vous avez peut-être imprimés ou pas, mais peu importe. Et sans les commenter, parce que tout notre travail, c'est d'essayer de clarifier. Alors, vos impressions, elles peuvent être multiples si vous avez déjà lu. C'est qu'il y a un côté à la fois immédiatement actuel. Il y a un côté actuel, mais qui peut choquer par rapport à nos mentalités d'aujourd'hui. Et il faut faire tout un travail par rapport à cela. Et puis, il y a des choses plus dures à saisir parce qu'elles ne peuvent se saisir que dans le contexte d'une société qui est quand même très éloignée de la nôtre. C'est Pierre Hadot qui disait qu'on est entré, j'aime bien reciter ça, dans une époque où peut-être on est en train, pour la première fois depuis 2300, 2500 ans, de ne plus comprendre ce que voulaient dire les anciens, quoi. Et donc, il est important, justement, de ne pas laisser s'échapper ce trésor pour la vie, pour l'existence. Je vais simplement relire ce que je vous ai donné pour s'imprégner de cela. J'ajouterai un principe de lecture qui me paraît essentiel et que souvent on a tendance, quelle que soit la lecture, à rejeter. Quand vous lisez un texte, un livre, quel qu'il soit, et que vous comprenez tout d'emblée et que tout vous est familier, c'est une lecture qui est sans intérêt. C'est-à-dire que vous lisez le même que vous, vous êtes dans un pur effet de miroir, donc ça n'apporte rien. Donc ce qui veut dire qu'il est important d'accepter, d'avoir la patience de lire des textes qui vous sont étrangers de prime abord. Donc, étranger, ça veut dire qu'il y a une difficulté. Et c'est là que la lecture est intéressante. C'est là que la lecture devient intéressante parce que vous êtes confronté à une altérité, à autre que soi. Et c'est ça qui vous oblige à faire un pas de côté. Et c'est ça précisément qui fait avancer. Et c'est ça précisément ce qu'est la pensée, quoi. Lire des choses. Quand quelqu'un dit « Oh ben ça, j'aurais pu l'écrire », c'est catastrophique. Par exemple. Voilà. Donc il faut accepter l'expérience de l'étrangeté, du dérangement quand on lit des textes. Voilà. Ceci étant dit, donc je lis les fragments, la petite sélection de fragments que je vous ai donnée. Je ne les commente pas, on ne les commente pas maintenant, et je reprendrai ensuite le fil de la réflexion engagé depuis déjà quelques séances. Chapitre 1, paragraphe 1, partage des choses, ce qui est à notre portée, ce qui est hors de notre portée. À notre portée, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre propre. Hors de notre portée, le corps, l'avoir, c'est les possessions, la réputation, le pouvoir. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre propre. Alinéa 2. Et si ce qui est à notre portée par nature libre, c'est-à-dire qu'on en a la maîtrise, sans empêchement, sans entrave, ce qui est hors de notre portée est inversement faible, esclave, empêché, étranger. C'est-à-dire, ce sur quoi on n'a pas de prise, c'est aliénant. C'est entravant parce que on peut s'escrimer dessus, ça nous échappe de toute façon. Donc, ce n'est pas là que se joue la liberté du sujet humain. Alinéa 3, toujours du chapitre 1. Donc, rappelle-toi. Je rappelle que Épictète s'adresse à un interlocuteur dans le manuel qui n'est pas un interlocuteur précis, qui est tous ceux qui sont susceptibles de suivre son enseignement, de lire son manuel, c'est-à-dire tous ceux qu'il appelle les progressants. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est trop pédago, les apprenants. C'est trop pédago. Les progressants, c'est ceux qui ont décidé d'avancer sur le chemin de la sagesse, quoi. Sachant qu'il est clair que la sagesse, c'est un but ultime, a priori non atteignable. Personne ne peut se dire qu'il est sage ou philosophe. C'est synonyme à l'époque, hein. Oui, je suis là. Si tu estimes libre ce qui par nature est esclave, et propre ce qui est étranger, tu seras entravé, tu prendras le deuil, le trouble t'envahira, tu feras des reproches aux dieux comme aux hommes, mais si tu estimes tien, cela seul qui est tien, étranger comme il l'est en effet ce qui est étranger, personne jamais ne te contraindra, personne ne t'empêchera, à personne tu ne feras de reproches, tu n'accuseras personne, jamais non, jamais tu n'agiras contre ton gré, d'ennemis tu n'en auras pas, personne ne te nuira. Alinéa 4, toujours du chapitre 1. Donc toi qui as de si hautes visées, le progressant, rappelle-toi, il ne faut pas modérer ton mouvement pour les atteindre, mais complètement laisser aller certaines choses et pour l'heure en ajourner d'autres. Mais si avec ces biens tu veux encore et le pouvoir et la richesse, d'abord tu n'obtiendras pas même ceci, parce que tu vises aussi cela, et de toute façon, il est sûr que tu manqueras les biens qui seuls donnent la liberté et le bonheur. Que la promesse du désir est d'atteindre l'objet du désir, la promesse de l'aversion de ne pas rencontrer l'objet de l'aversion, et que celui qui dans le désir manque l'atteinte n'est pas heureux. Celui qui dans l'aversion fait la mauvaise rencontre est malheureux. Si donc tu as en aversion cela seul entre les choses qui sont à ta portée, qui va contre la nature, tu ne rencontreras rien de ce que tu as en aversion. Inversement, si tu as en aversion maladie, mort ou pauvreté, tu seras malheureux. Je ne commande pas toujours. Alinéa 2 du chapitre 2. Ôte donc l'aversion de toutes les choses qui sont hors de notre portée. Et retourne-la parmi les choses qui sont à notre portée, vers ce qui va contre nature. Juste quand même un petit commentaire explicatif. Nature contre nature, il ne faut pas l'entendre au sens où on l'entend aujourd'hui, quoi. La nature, par exemple, aujourd'hui, il y a des expressions malheureuses pour stigmatiser des gens dont on dit ils ont des mœurs ou des comportements contre nature. En fait, c'est très normatif aujourd'hui l'expression contre nature. C'est des normes sociales qui sont désignées par ça. Il est clair que chez les stoïciens épictètes, il ne s'agit pas de cela. La nature, c'est le cosmos qui a obéi à un ordre universel qui est au fond le logos, qui est propre aussi à l'humain et à l'âme humaine. Le logos, c'est la raison, c'est l'ordre qui fait qu'il y a de l'harmonie. C'est ce qui explique que le mot cosmos, en grec, veut dire aussi bien le monde, l'univers, mais veut dire aussi la beauté et un bijou. Ce qui explique qu'en français, cosmos a donné aussi bien le cosmos, cosmique, et cosmétique. C'est le même mot. Mais c'est le même mot parce que c'est le double sens qui est confondu en grec. Voilà. Ce qui obéit à l'ordre du logos et le monde obéit à l'ordre du logos est nécessairement beau et harmonieux. Donc c'est ça qui est en jeu là quand il parle de contre-nature. Attention à ne pas faire de contre-nature 2 du chapitre 2. Ôte donc l'aversion de toutes les choses qui sont hors de notre portée et retourne-la parmi les choses qui sont à notre portée et vers ce qui va contre-nature. Quant au désir, pour l'heure, supprime-le complètement. Pour l'heure, attention, hein, pour l'heure. Hein. Si en effet tu désires l'une des choses qui sont hors de notre portée, il faut nécessairement que tu ne sois pas heureux. Mais parmi celles qui sont à notre portée, toute chose qu'il serait beau de désirer, aucune n'est présente encore. Fais usage des seules impulsions et répulsions, légèrement pourtant, avec réserve et sans contrainte. Chapitre 3. pour chacune des choses qui réjouissent ton âme, ou qui rendent service, ou que tu aimes, rappelle-toi, dire de quelle sorte elle est, en commençant par les infimes. Si tu aimes un vase d'argile, dire « j'aime un vase d'argile ». Vient-il en effet à se briser, tu n'en seras pas troublé. C'est un vase d'argile. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, te dire que tu embrasses un être humain. Vient-il en effet à mourir et tu n'en seras pas troublé. Cela dit, ce qui nous trouble là, c'est que tout ceci nous est très étranger parce que ça ne correspond plus du tout à nos pensées entre guillemets naturelles. Ce que j'appelle là naturel, c'est pas conforme à la nature, nos pensées qu'on a complètement intériorisées comme des évidences du fait de notre bain social et culturel, quoi. Là, donc, cette lecture nous oblige à sortir de ce bain, totalement. C'est-à-dire l'opinion commune, voilà. Et donc, ce qui nous heurte, il faut faire l'effort, non pas de dire, pour viser le fait d'être d'accord, mais pour dire, ça m'oblige à sortir, à remettre en cause mes opinions toutes faites, mes penchants naturels de penser. Après, j'adhère ou pas, mais c'est qu'après qu'on se pose la question, c'est pas au point de départ. Voilà. Gagner d'aucune supériorité étrangère. Ça, c'est drôle. Si ton cheval disait son orgueil, je suis beau, ce serait supportable, c'est le cheval qui le dit. Mais toi, lorsque tu dis dans ton orgueil, j'ai un beau cheval, sache que tu t'enorgueillis du bien d'un cheval. Qu'est-ce donc qui est tien? L'usage des représentations. Ça, c'est essentiel. En sorte que lorsque, dans l'usage des représentations, tu es dans une disposition accordée à la nature, c'est le moment, enorgueillis-toi. Alors, en effet, tu t'enorgueillis du bien qui est tien. Et pas de la beauté de ce qui n'est pas tien, par exemple, de ton cheval. Chapitre 5. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les évaluations prononcées sur les choses. Ainsi, la mort n'est rien de terrible. Car même à Socrate, elle sera apparue terrible. Mais l'évaluation prononcée sur la mort, il y a eu des textes contemporains très intéressants sur l'évolution des représentations de la mort dans notre société depuis l'Antiquité, en tout cas depuis le Moyen-Âge. Je pense à cet historien des mentalités, Philippe Ariès, Ariès, A-R-E, accent grave, S, qui est intéressant, il montre comment... Et là, récemment, il y a un philosophe, Descartes, et là, il vient de sortir un livre justement sur le même sujet, sur les représentations de la mort. Il faut savoir qu'au-delà d'Épictète et des Stoïciens, les Grecs anciens n'avaient pas du tout justement la même représentation de la mort. Ce qui veut dire qu'ils ne craignaient pas la mort du tout. Donc, il faut se resituer comme cela pour ne pas refuser d'emblée ce genre de formule, quoi. Donc ce qui est le problème, c'est l'évaluation prononcée sur la mort. Quelle est terrible, voilà ce qui est terrible. D'ailleurs, c'est ça qui est... Voir que la mort, c'est pas la chose en soi qui pose problème, la représentation qu'on en a, ça permet de comprendre et de mieux se positionner par rapport à tous les actes de sacrifice, que ça soit les kamikazes japonais ou d'actualité beaucoup plus saisissante, les djihadistes qui se tuent volontairement et qui tuent le maximum. Si on ne voit pas qu'ils sont dans un rapport mental de représentation à la mort différent, si on ne réfléchit pas à ça, on ne peut qu'être sidéré et démuni complètement par rapport à ces actes. On est empêché de penser la chose, quoi. Donc c'est vraiment important de... Et là, en l'occurrence, Épictète, mais plus largement sur cette question-là, tous les Grecs anciens peuvent nous aider à réfléchir justement à cette question-là. Quand donc nous sommes entravés ou troublés ou affligés, n'en imputons jamais la faute à l'autre, mais à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos propres évaluations. C'est le fait d'un homme non formé que d'accuser les autres des malheurs dont il est lui-même l'auteur. Et ça, c'est important. Celui qui a commencé de se former s'accuse lui-même. Celui qui a achevé de se former n'accuse ni un autre, ni lui-même. Pour le 4, rien à voir avec celui qui est nommé 4 et qui correspond 6. Voilà. Quand tu dois t'adonner à une œuvre, quelle qu'elle soit, ressouviens-toi de quelle sorte est cette œuvre. Si tu sors prendre un bain, représente-toi ce qui arrive au bain. Les baigneurs s'éclaboussant, se heurtant, s'injuriant, les voleurs. C'était des bains publics, hein. Et ainsi, tu t'adonneras plus sûrement à cette œuvre si tu dis immédiatement « Je veux me baigner et garder ma volonté dans une disposition accordée à la nature. » Et de même pour chaque œuvre. Ainsi, en effet, s'il arrive quelque chose qui t'empêche de te baigner, tu auras la réponse à portée de main. Mais ce que je voulais, ce n'était pas seulement cela, mais aussi garder ma volonté dans une disposition accordée à la nature. Or, je ne la garderai pas dans cette disposition si je m'emporte contre les événements. Ce que ça veut dire, c'est que je veux me baigner et je vais être complètement troublé et embêté par le fait qu'il y en ait qui me bousculent, etc. Et en fait, si je perds de vue que l'important, c'est que je me baigne et que je suis perturbé par ce qui se passe autour et qui ne dépend pas de moi, en l'occurrence, eh bien, je vais mal le vivre, comme on dirait aujourd'hui. Dis ce que je viens de dire. Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux. Mais veuille les événements comme ils arrivent. Et le cours de ta vie sera heureux. Chapitre 9. La maladie est entrave pour le corps. Mais non pour la volonté. Et c'est elle-même ne le veut. La boiterie est entrave pour la jambe, non pour la volonté. Et dis-toi cela pour tout ce qui tombe sur toi, car tu découvriras que c'est une entrave pour un autre, non pour toi. Chapitre 10. Pour tout ce qui tombe sur toi, rappelle-toi de chercher, faisant retour sur toi-même, quelle puissance tu détiens pour en faire usage. Si tu vois un bel homme ou une belle femme, tu découvriras pour leur faire face la maîtrise de toi. De soi. Que la fatigue te vienne, tu découvriras l'endurance. Le reproche te blessant, tu découvriras la patience. Et avec cette habitude, les représentations ne te captiveront pas. Et c'est là que se joue la liberté. Ne pas se laisser. Chapitre 11. Alors ça renvoie aussi à tout un fond de pensée que je ne commande pas plus là. Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Se raccrocher à ce que je disais avant. Hein. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. On m'a pris mon domaine, alors lui aussi a été rendu. Mais celui qui me l'a pris est méchant. Quelle importance pour toi? Par qui te l'a réclamé? Celui qui te l'avait donné. Alors, celui qui a donné le domaine, c'est par exemple les dieux, Zeus. Et donc, si Zeus récupère ton domaine qu'il t'avait prêté, par le biais d'un voleur, tu dois prendre en compte le fait que ce domaine, c'était pas toi, c'était pas toi, ta propriété fait tien, c'était de passage, quoi. Et ça c'est très intéressant. Ça permet de prendre de la distance, par exemple, par rapport sur la révolte. on n'a pas raison de se révolter, on y a réfléchi par la suite. Parce que la révolte, c'est mortifère, c'est une passion mortifère. Ce qui est autre chose, c'est ce que j'avais expliqué l'autre fois, que la révolution. Et on va y revenir, les stoïciens, de ceci, on ne peut pas en tirer, par exemple, un refus ou une renonciation à tout engagement politique. Au contraire. Les stoïciens, par exemple, dans l'époque impériale, sont des gens qui ont été très résistants et qui l'ont payé de leur liberté et de leur vie aux empereurs qui dérivaient vers une forme de domination dictatoriale. Ça a été les plus grands résistants. Donc, ce n'est pas contradictoire. Il faut penser tout ça ensemble. Ce n'est pas contradictoire avec un engagement politique, avec l'idée de révolution. Prenons ce mot-là pour faire vite. Mais la révolte, ce n'est pas ça. Ça sert à quoi de se révolter contre quelque chose sur lequel on ne peut rien? Si ce n'est s'entraver, s'aliéner de soi-même, se faire de la bile, ce que les anciens appellent la bile noire qui crée et mélancolie, c'est la mélancolie. Réfléchir non pas aux choses, mais aux représentations qu'on a sur les choses, qu'est-ce que c'est si ce n'est précisément l'esprit critique? Bon, mais j'avais dit qu'on ne faisait pas de commentaires maintenant.
D'accord.
Quelle importance pour toi, donc je termine le chapitre 11, par qui te l'a réclamé? Celui qui te l'avait donné tant qu'il te le permet, prends-en soin comme d'un domaine étranger, comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie. C'est important ça. Se pourrir la vie parce que on a perdu ou cassé un objet, un bel objet, mais se pourrir la vie dessus, c'est se priver de sa liberté, hein, si on y réfléchit bien. Et ça arrive combien de fois qu'on se pourrit la vie parce qu'on a perdu ou cassé un objet? Ça va. On peut suivre à la trace toute l'influence du stoïcisme chez Rousseau. Et quand Rousseau dit, le premier qui a dit « ceci est à moi » est un voleur. Eh bien, ça, c'est directement la conséquence de ce qu'on vient de lire. Directement. Eh bien, ça ferait beaucoup de bien par rapport à la production de toutes les névroses aujourd'hui. Parce qu'on a trouvé quand même une progression de pensée, ce qui fait qu'on ne peut plus comprendre ça aujourd'hui. Une progression des mentalités, un progrès humain, comme on dit, si ça existait, le progrès humain. Bon. Que l'enfant, grâce à la contraception, soit un objet de désir, un projet, donc un objet de désir. Je pense que c'est la pire des catastrophes anthropologiques.
Mais
on ne va pas aborder parce que...
L'heure,
ouais. Oui, mais précisément l'adoption, l'ambiguïté de l'adoption, c'est que souvent, c'est la même démarche qui est effectuée par les parents adoptés, et ce qui crée des problèmes parfois encore plus graves.
Je ne parle pas de l'adoption, je parle de la non-adoption. C'est-à-dire que la logique
crée que
les parents
mentalement...
adoptent, puisqu'il y a déjà des enfants sur Terre, et n'ont pas vouloir leur enfant. C'est là la logique. En suivant ta logique.
Oui, que l'humanité des enfants
c'est
à tout le monde.
L'enfant et l'enfant.
Mais vous savez que ce n'est pas éloigné. Pour ceux qui étaient là quand on avait abordé la République de Platon, ce n'est pas très éloigné. Dans la cité modèle que Platon préconise, dans la République... il est clair sur un sujet qui est que les enfants doivent être retirés de leur géniteur après la naissance et être confiés à des gardiens de la République. Les gardiens de la République, c'est des éducateurs, si vous voulez. Et qu'il imagine le système qui fait que les enfants ne sauront jamais qui sont leurs géniteurs. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une continuité de pensée. Et c'est là qu'on voit où le stoïcisme n'est pas... Chapitre 12. Si tu veux progresser, abandonne les calculs du genre. Si je ne me soucie pas de ce qui est, je n'aurai pas les moyens de subsister. Si je ne punis pas mon esclave, il se pervertira. Car il vaut mieux mourir d'inanition sans chagrin et sans peur plutôt que de vivre dans l'abondance et le trouble. Il vaut mieux que ton esclave se pervertissent plutôt que d'être toi malheureux. C'est tellement vrai. Ça, pour le coup, on peut le comprendre directement. C'est-à-dire qu'on a un esclave. Prenons pas un esclave, prenons une femme de ménage. C'est en permanence. C'est en permanence, on se dit, il faut la surveiller parce qu'elle va me voler. Elle va casser la table main, elle va voler en douce des choses. Si on est en permanence là-dessus, et qu'en permanence on est dans l'idée de la serrer, eh ben on est malheureux. On est malheureux. On peut, pour le coup, les comprendre assez facilement si on réfléchit un petit peu à notre vie et comment on raisonne dans notre vie. Donc, alinéa 2 du chapitre 12, aussi, commence par les petites choses. L'huile est répandue, le vin est volé, dis-toi, c'est le prix de l'impassibilité, le prix de l'ataraxie. Alors, ataraxie, c'est un mot très important chez les Grecs, ataraxia, qui est beaucoup utilisé, alors on le trouve chez Platon, mais beaucoup chez les stoïciens, aussi chez les épicuriens. C'est l'état qu'il faut viser de tranquillité de l'âme. C'est la tranquillité de l'âme, c'est un état où on est sans trouble, sans perte. La faim, la soif, c'est des besoins qui appartiennent au corps, ils existent, on n'y peut rien, on ne peut pas supprimer ça, ça ne dépend pas de nous, ça. La faim, la soif ne dépend pas de nous. Non, c'est tout ce qui vient nous troubler mentalement. C'est la sérénité, c'est la sérénité, la tranquillité de l'âme. Voilà, c'est ça l'ataraxie. Alors, c'est le prix de l'impassibilité, le prix de l'ataraxie. Rien n'est donné, rien n'est donné. Lorsque tu appelles ton esclave, réfléchis qu'il peut ne pas t'écouter. Et s'il a écouté, de ne rien faire de ce que tu veux. Mais il n'est pas dans une disposition si belle qu'il soit à sa portée, que toi, tu ne sois pas troublé. Ça veut dire tout simplement que l'esclave, c'est un autre, il n'est pas forcément dans votre logique. Donc il peut avoir un comportement qui n'est pas ce que tu veux. Si tu veux progresser, consens pour les choses extérieures à paraître stupide et insensé. N'aie pas la volonté de paraître rien savoir. Traduction, autre traduction, ne tient pas à paraître savoir. C'est plus facile à comprendre. Ne tient pas à paraître savoir. Ceux qui font semblant de savoir, c'est permanent ça. Même si tu parais quelqu'un à certains, défie-toi de toi-même. Car sache qu'il n'est pas facile de garder ta volonté dans une disposition accordée à la nature tout en gardant les choses extérieures. Mais celui qui se soucie de l'un, de toute nécessité, est insouciant de l'autre. On reviendra sur ça qui est très important. Chapitre 15. Rappelle-toi. Alors, juste quand même, sur la formule « rappelle-toi » qui revient souvent. Il faut savoir que le manuel, c'est comme un outil qu'on a en poche, c'est un poignard qu'on a à la main pour se défendre. C'est un petit outil qu'on devrait avoir dans la poche. Il faut connaître ça par cœur pour savoir réagir dans toutes les situations de la vie. Donc, rappelle-toi ce principe, cette règle de conduite. Il faut que tu l'aies en tête pour avoir la bonne réaction, la bonne attitude. D'où cette formule qui revient sans arrêt. Rappelle-toi, il faut te conduire comme dans un banquet. Le plat que l'on passe à la ronde est arrivé près de toi. Tends la main, prends ta part avec mesure. Il ne faut pas être un goinf. Il t'échappe, ne le retiens pas. Il n'est pas encore là, ne projette pas à l'avance ton désir, mais attends qu'il arrive près de toi. Alors, ses enfants, ainsi avec ta femme, ainsi avec le pouvoir, ainsi avec la richesse. Et tu seras un jour digne de boire avec les dieux. Et il y a une autre formule ailleurs qui est encore plus belle, et tu seras un jour à la table des dieux.
vertu.
Si tu ne prends pas ce qui t'est offert, mais que tu le regardes avec dédain, alors tu ne seras pas seulement digne de boire avec les dieux, mais aussi de partager leur pouvoir. C'est par de tels actes, en effet, que Diogène, Héraclite et leurs semblables étaient justes. Chapitre 16. Quand tu vois quelqu'un pleurer, endeuillé, ou parce que son fils est parti en voyage, ou parce qu'il a perdu ses biens, applique-toi à ce que la représentation ne te captive pas, qu'il traverse des mots qui lui viennent du dehors. Autre traduction plus facile à comprendre, mais moins rigoureuse. Prends garde de ne pas te laisser emporter par l'idée que les mots dont il souffre lui viennent du dehors. Mais que ta réponse, que la réponse immédiate soit à portée de ta main. Ce n'est pas l'événement qui oppresse cet homme, un autre en effet n'est pas oppressé, mais l'évaluation qu'il prononce sur lui. Pourtant, dans les limites de la parole, ne crains pas de lui porter de la sympathie. Et si le cas se présente, de gémir aussi avec lui. Donc, ce n'est pas un égoïsme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un égoïsme forcené, le stoïcisme. Voilà. Applique-toi pourtant à ne pas gémir aussi dedans, au dedans. C'est pour se prévenir d'un travers que nous tous contemporains avons, de se projeter. Je suis quand même frappé de comment beaucoup de gens voient quelqu'un malade. Par exemple, le cancer qui fait peur. Il va vers lui et dit « Oh là là !» Et en fait, ils projettent leur angoisse sur la personne. Donc ils ne sont pas solidaires avec la personne. Ils ne sont pas en sympathie à la personne. Ils expriment leur propre angoisse. Ils sont purement dans la projection. C'est ça qu'il veut dire là. C'est-à-dire que ça, c'est au-dedans. Au-dedans. Ce n'est pas extérieurement avoir une sympathie pour l'autre. C'est au-dedans. On éprouve son angoisse, sa peur de la maladie, son hypochondrie permanente.
La sympathie, c'est souffrir avec.
Oui, mais souffrir avec, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui n'est pas soi, qui est autre. Les philosophes grecs, Épictète, connaissaient ces pensées-là. Même Platon, dans la période classique, donc avant, c'était pas encore l'Empire, est allé en Égypte. Et Platon connaissait les mystères égyptiens. Et il y fait allusion, d'ailleurs, explicitement dans certains des textes. Donc, effectivement, Il y a des influences, il y a des brassages. Et Épictète et tous les stoïciens, bien sûr qu'ils ont connu, alors c'était pas le bouddhisme, la pensée orientale, la pensée... Chapitre 20. Rappelle-toi, ce qui outrage, ce n'est pas celui qui insulte ou celui qui frappe, mais l'évaluation qui prononce que ces hommes t'outragent. Quand donc quelqu'un t'a provoqué, sache que c'est ton propre jugement qui l'a provoqué.
Qui t'a provoqué.
Aussi, avant toute chose, essaie de ne pas être captivé par la représentation, car une fois que tu auras obtenu temps et délai, tu seras plus facilement maître de toi. Temps et délai, c'est un aspect que je n'ai pas souligné en gras, qui est important. C'est-à-dire, il faut la patience, il faut les... On veut tellement être quelqu'un aujourd'hui. Si en effet la privation d'honneur est un mal, il n'est pas possible que tu sois dans le mal par le seul fait d'un autre. C'est-à-dire que l'honneur, ça ne dépend pas de toi, c'est les autres qui te le donnent. Pas plus que dans la honte. Serait-ce donc ton œuvre d'obtenir une magistrature ou d'être reçu à un banquet? En aucune façon. Aujourd'hui, alors, chez les écrivains, chez plein de gens, j'entends tous les jours des lamentations. « Ah, moi, j'ai pas été invité. J'ai pas reçu le carton d'invitation. » Et il y a des gens qui se bouffent les sangs sur ce genre de forme. Ah, « J'ai pas reçu le carton d'invitation. Sous-entendu, je suis pas reconnu. Ah, » c'est terrible. Et ça... Mais alors, comment serait-ce encore la privation d'honneur? Comment ne seras-tu personne nulle part? Toi qui as à être quelqu'un dans cela seul qui est à ta portée, où il est en ton pouvoir d'être digne de la plus haute considération. Donc tout ce qui est le pouvoir, les honneurs, ce n'est pas à ta portée. Donc, alinéa 2 du chapitre 24, une autre facette du problème. Mais tu laisseras tes amis sans secours? Que veux-tu dire sans secours? Ils ne recevront pas de toi l'aumône, et tu ne les feras pas non plus citoyens romains, pour ceux qui avaient ce pouvoir de... Mais qui t'a dit que cela entrait dans ce qui est à notre portée, que ce n'était pas là œuvre étrangère? Qui peut donner à un autre ce qu'il n'a pas lui-même? Mais alors, acquière, dit l'un, pour que l'avoir nous revienne. Alinéa 3. Si je puis acquérir en me gardant réservé, fidèle, magnanime, montre-moi le chemin et j'acquérerai. Mais si vous jugez digne que moi, je perde des biens qui sont miens, afin que vous, vous obteniez ce qui n'est pas un bien, voyez comme vous êtes inique et irréfléchi. Que préférez-vous donc, de l'argent ou un ami fidèle et réservé? Alors, aidez-moi plutôt dans cette tâche et ne jugez pas digne que j'agisse en sorte que je perde tout cela. Patrie, autant qu'il est en moi, dira-t-on, restera sans secours. Encore une fois, de quel secours s'agit-il là? Elle ne tiendra de toi ni portique ni bain. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui pourras édifier des... Voilà. Et qu'est-ce là? Car elle ne tient pas non plus les souliers du forgeron, ni les armes du cordonnier. Autre traduction, ce n'est pas les forgerons qui lui donnent ces choses en cas de guerre, hein, par exemple. Il faut aider la patrie. C'est assez que chacun remplisse l'œuvre qui est la sienne propre. Et ça, c'est essentiel par rapport à aujourd'hui. Il faut vraiment penser ça à fond, parce qu'aujourd'hui, on veut toujours faire et être ce qui n'est pas soi. Je prends souvent l'exemple, parce qu'on est dans une classe, le travers des instits qui ne rêvent que d'être prof de fac, enfin, prof de lycée, des profs de lycée qui ne rêvent que d'être prof de fac, des profs de fac qui ne rêvent que d'être écrivain. C'est une catastrophe aujourd'hui. C'est-à-dire, on veut toujours faire et être ce qu'on n'est pas, et ce pourquoi on n'est pas forcément fait. Ce qui n'est pas notre œuvre propre. Donc ça, c'est un principe essentiel. Méditons sur ce qui nous appartient, c'est-à-dire quelle est notre œuvre propre, quelle est ma place, qu'est-ce que j'ai à faire, et non pas vouloir toujours faire ce qui revient à d'autres. La ligne 4, je crois que j'étais,
oui.
Non, et donc je relis tout le 4. Mais la patrie, autant qu'elle est en moi, dira-t-on, restera sans secours. Encore une fois, de quel secours s'agit-il là? Elle ne tiendra de toi ni portique ni bain. Et qu'est-ce là? Car elle ne tient pas non plus les souliers du forgeron, ni les armes du cordonnier. Autrement dit, ce ne sont pas les forgerons qui lui donnent ses chaussures, ni les cordonniers des armes. C'est assez que chacun remplisse l'œuvre qui est la sienne propre. Et si tu préparais pour elle quelque autre citoyen fidèle et réservé, ne lui serais-tu pas? Ne lui serais-tu d'aucune utilité? Si, mais alors, toi non plus, tu ne lui serais pas inutile. Quelle place aurais-je donc, demandera-t-il, dans la cité? Celle que tu pourras occuper en gardant en toi l'homme fidèle et réservé. Alinéa 5. Mais si, avec la volonté de lui être utile, tu perds tout cela, en quoi pourrais-tu lui être utile, toi qui es devenu à la fin impudent et infidèle? Je ne commande pas plus. Chapitre 26. Il est possible d'apprendre le dessein de la nature à partir des points sur lesquels nous ne différons pas. Autre traduction, on peut reconnaître ce que veut la nature par les choses sur lesquelles, entre nous, nous ne sommes pas d'un avis différent. C'est une forme de consensus, et les scientifiques aujourd'hui fonctionnent comme ça, hein. Une loi, par exemple, d'astrophysique tient tant qu'il y a un consensus de la communauté des astrophysiciens. Le jour où un astrophysicien apporte une contradiction, un avis dissonant, on dit il a découvert autre chose. C'est pas ça. Il a modifié son positionnement et sa représentation. Parce que les lois physiques, si on évacue tout scientisme, c'est quoi? C'est des représentations. C'est une forme de saisie par l'intelligence, par l'esprit, de ce qui est autre que nous. C'est le logos, l'univers. Donc là, il insiste sur cet aspect consensus qui détermine des lois de la nature, c'est-à-dire du cosmos. Ainsi, quand le jeune esclave d'un autre a brisé la coupe du maître, la réponse est immédiatement à portée de main. Ce sont des choses qui arrivent. Eh oui. Vous rencontrez quelqu'un qui me dit « Ah, ma femme de ménage, elle a cassé le truc, je suis désespéré. » La meilleure réponse, qui est assez spontanée, c'est de lui dire « Mais c'est des choses qui arrivent. » Donc, sache-le bien. Lorsque c'est aussi la tienne qui est brisée, il te faut être le même que lorsque c'est la coupe d'un autre. Pratique la même transposition aussi dans les cas plus considérables. Donc on revient sur les enfants d'un autre mort, la femme. Il n'est personne qui ne pourrait dire, proche à toi, à soi, on dit pauvre de moi. Il faudrait se rappeler ce que nous éprouvons en apprenant la chose lorsqu'on la manque. Ainsi, un mal naturel n'arrive pas non plus dans le monde. Autre traduction, le mal de même n'existe pas dans le monde. Alors, ça veut dire que ça, c'est un point essentiel, bon, qui est plus théorique, mais essentiel. Pour les stoïciens, l'ordre du cosmos, c'est-à-dire les choses qui constituent le monde, le cosmos, sont hors de la morale. C'est ni bien ni mal. Il y a une pièce là, une pierre là, c'est ni bien ni mal. Les animaux, l'ordre des animaux, c'est ni bien ni mal. Un animal, c'est ni bien ni mal. Le comportement d'un animal, c'est ni bien ni mal. C'est hors de ce champ-là. Le champ de la réflexion morale, éthique, genre synonyme là désormais les deux mots, le champ de la réflexion morale et éthique n'appartient qu'au sujet humain dans ce qu'il est dans sa sphère de l'âme supérieure, c'est-à-dire dans ce qui renvoie à son propre jugement sur les choses, à ses propres représentations. C'est uniquement là que se joue la question du bien et du mal. Sur tout le reste, les catastrophes qui nous environnent, c'est ni bien ni mal. C'est. On ne peut pas dire ça doit être ou ça ne doit pas être. Un tremblement de terre, prenons même cet exemple, on ne peut pas dire que c'est bien ou mal d'un point de vue moral. Un tremblement de terre, c'est un événement qui est. La morale n'a rien à voir là-dedans. Et c'est tout le débat. Et on retrouve là comment Rousseau était profondément stoïcien. Vous savez l'histoire que j'aime à rappeler et que certains ont déjà entendu. Voltaire a été détestable avec Rousseau. Mais vraiment détestable. Il a contribué à l'exil de Rousseau en Suisse. Le point de départ, c'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne, qui est la première catastrophe médiatique. Parce que ça a secoué les esprits de l'Europe entière. Il y a eu des milliers de morts. Et alors Voltaire écrit avec tambour et trompette, avec ça, je ne peux plus croire qu'il y ait un dieu. Parce qu'un dieu ne pourrait pas faire ça. C'est-à-dire, il est dans un jugement moral. Il considère que c'est un mal moral, le tremblement de terre. Et Rousseau lui répond, ça n'a rien à voir avec un jugement moral qu'on pourrait porter sur l'ordre du monde. Dieu, il faut l'entendre comme un logos, si on veut. C'est la faute des hommes qui ont construit, qui ont urbanisé une zone qui n'aurait pas dû être urbanisée de façon concentrée. En plus, c'est d'une actualité du point de vue de réflexion d'aménagement du territoire. Ça se repose à chaque inondation aujourd'hui. Je veux dire, Rousseau, mais sa réponse profondément à Rousseau était une réponse stoïcienne. Ah oui, chapitre 28. Si l'on confiait ton corps au premier venu, tu t'en hériterais.
C'est pas balance ton corps.
Mais confier ta propre... mais confier ta propre pensée au premier que tu rencontres, pour s'il t'injurie qu'elle en soit troublée et confondue, tu n'en ressens pas de honte ? Autre traduction. Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré pour qu'il la trouble et la bouleverse, s'il t'injurie, tu n'as pas honte à cela. Quelqu'un agit mal envers toi ou dit du mal de toi. Rappelle-toi qu'il le fait ou le dit en pensant qu'il convient pour lui de le faire ou de le dire. Il ne lui est... Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il ne lui est donc pas possible de suivre ce qui t'apparaît à toi, mais seulement ce qui lui apparaît à lui-même, en sorte que si la chose lui apparaît mal, celui-là est lésé qui aussi se trompe. Et en effet, si quelqu'un juge fausse une proposition conjonctive vraie, une proposition conjonctive, la traduction, elle est un peu trop technique là, c'est de la grammaire, de la syntaxe, c'est une proposition qui est commandée par une conjonction, c'est par exemple, je pense que ceci, cela. Voilà. Ce n'est pas la proposition conjonctive qui est lésée, mais celui qui s'est trompé. Si donc tu pars de là, tu seras dans de douces dispositions envers celui qui t'a juré. Car dans chaque cas, prononce, il l'a cru bon. Il en a jugé ainsi. Ce qui m'a fait dire que quand quelqu'un t'adresse des propos insupportables, je pense que la meilleure réponse, c'est de lui dire au fond, si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir. Et en réalité, c'est probablement ce qui déstabilise le plus l'autre. Mais il faut arriver à cela. Et arriver à cela, ça suppose de surmonter l'affect immédiat, quoi. Mais je pense que c'est ce qui est le plus efficace comme attitude, en réalité. Pour avoir beaucoup réfléchi à ça, si on se trouve à quelqu'un qui vous adresse une énormité contre toi, contre soi, vous lui dites, si tu crois ça, voilà. Là, je crois qu'il arrête instantanément. Ça déstabilise pour le coup complètement. Chapitre 43. Toute chose a deux sens. L'une par où il est possible de la porter, l'autre par où c'est impossible. Si ton frère se conduit injustement, ne prends pas la chose sous cet angle, qu'il se conduit injustement, car c'est l'anse par où il est impossible de la porter. Mais plutôt sous cet autre, c'est mon frère. Il a été élevé avec toi, et tu prendras la... Chapitre 46, et c'est le dernier. Alinéa. Nulle part ne te dis toi-même philosophe, et ne discute pas constamment des thèses philosophiques devant des profanes, mais fais ce qui suit des thèses. Ainsi, dans un banquet, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. Voilà, ça c'est très important. Rappelle-toi en effet, Socrate avait su complètement supprimer la montre, c'est-à-dire tout étalage démonstratif, autre traduction qui est plus claire que la montre, qui est une formulation, c'est pas la montre. Hein. Que l'on venait à lui quand on voulait être introduit auprès de philosophes et lui-même faisait les présentations. Il ne disait pas, mais moi, je suis le philosophe. Donc, il introduisait la personne auprès d'autres et il faisait des présentations. Tant il supportait qu'on ne le remarqua pas. Et deux, c'est pour ça que... Enfin, bref. Et si parmi les profanes, la conversation tombe sur quelques thèses philosophiques, garde le plus souvent le silence. Le risque est grand, en effet, de rejeter sur l'heure ce que tu n'as pas digéré. Et lorsque quelqu'un te dit que tu ne sais rien et que toi, tu ne ressens pas la morsure, sache alors que tu commences l'œuvre de ta vie. Hein? Lorsque quelqu'un te dit « tu ne sais rien » et tu ne ressens pas la morsure, alors tu commences le chemin vers la sagesse. Car même les brebis Ce n'est pas en apportant de l'herbe au berger, ce n'est point, autre traduction, en rendant au berger l'herbe qu'elles ont avalée, hein, Florence, qu'elles montrent combien elles ont mangé. Mais elles digèrent le fourrage au-dedans, puis elles rapportent au dehors de la laine et du lait, ou de la viande. Donc, toi non plus ne montre pas aux profanes les thèses philosophiques, mais les œuvres qui s'en suivent lorsqu'elles ont été bien digérées. Un aperçu quand même assez précis, même si c'est que des extraits, de la pensée, en l'occurrence d'Épictète dans le manuel, mais qui est assez proche de la pensée stoïcienne en général. On peut retrouver vraiment la même logique chez Marc Aurèle, on peut retrouver la même logique de pensée chez Sénèque et même chez Cicéron. Mais restons-en au manuel, éclairé par cela de façon plus concrète, plus sensible, poursuivons ce qu'on avait engagé l'autre fois. Donc je rappelle qu'on avait essayé de dégager le plan de ce livre dont l'ordre n'est pas toujours évident. Dans ce manuel, il y a, on va dire, quatre grandes parties. C'est un rappel, hein, mais un rappel pour tout le monde et une précision pour ceux qui n'étaient pas là. Le début, ça se résume au premier paragraphe, au premier chapitre. C'est l'importance de discerner, de distinguer ce qui dépend de nous, c'est-à-dire ce qui est à notre portée et ce qui ne dépend pas de nous. Donc, on l'a vu l'autre fois, on continuera à le préciser. Ça, c'est la base de l'exercice stoïcien. Parce que ça ne va pas. Épictète précise des choses, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Mais dans les situations de la vie, c'est à chaque fois qu'il faut s'interroger sur ça. Est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça ne dépend pas de moi ? En gros, je résume, hein, c'était le chapitre 1. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui est extérieur à soi, ce qui est donc le corps physique. C'est extérieur à soi. Je rappelle que pour les Grecs, l'âme était portée, mais que le corps, on ne maîtrise pas le corps. Et la meilleure preuve, c'est qu'on n'a aucun effet sur la mort du corps. Aucun effet. Sur la mortalité du corps. Et même la maladie, on peut... Il faut faire attention à une tendance actuelle qui me paraît quand même très dangereuse, de trop psychologiser ou mentaliser la maladie. C'est-à-dire que je pense qu'on a trop tendance, y compris certains médecins, qui justifient leur non-capacité d'intervention en disant « c'est mental, c'est mental ». Ah, tu te l'es fabriqué ton cancer. Voilà. Autrement dit, si tu avais un autre mental, en plus c'est très culpabilisant entre deux soignants. Je crois qu'il y a une illusion complète là-dedans, grave, qui est de faire comme si ça dépendait de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne veut pas dire pour autant.
Je ne sais pas si on peut généraliser comme ça. On peut pas.
Et bon. Et ce qui est à notre portée, à l'inverse, ce qui est à notre portée. Parce que c'est ça qui est important. C'est tout ce qui va renvoyer, en fait, qui renvoie au logos. La partie supérieure de l'âme, c'est la partie du jugement. Le jugement. Le jugement qui est éclairé par le logos. Alors, j'hésite à traduire logos là, qui est un mot beaucoup plus important que les traductions qu'on peut en donner, mais quand même, je vais dire, la raison. Sauf que, il ne faut pas en tirer un sens rationaliste ou rationalisateur de la raison. Raison, il faut l'entendre dans l'autre adjectif possible de raison qui est raisonnable. Raison, en français, ça se décline vers rationnel et vers raisonnable. Il faut l'entendre dans le sens raisonnable, la raison. Et donc, c'est de l'ordre, ce qui dépend de nous, de toutes nos représentations, de tous nos jugements, de toutes nos opinions, si on veut dire autrement. C'est ce qui est de l'ordre, pour Épictète, pour les stoïciens, des désirs ou des aversions, dans l'autre sens, et de l'ordre des affects, des passions, et de l'ordre de notre capacité d'agir ou de ne pas agir. C'est-à-dire de la pulsion qui nous pousse à l'agir. Et ça, faut l'entendre dès le sens le plus matériel, je veux dire, marcher. Par exemple, marcher, mettre une jambe devant l'autre, c'est déjà ça, quoi. Se mettre en mouvement. On réservera le terme impulsion pour cela. Voilà, c'est ça qui dépend de nous. Voilà, mais au fond, tout le manuel, ça c'est le début, hein, la première partie, mais tout le manuel reviendra constamment là-dessus, quoi. Parce que la sagesse, au fond, qui est le but à atteindre, la sagesse, et qui permet le bonheur, la sagesse consiste à savoir, en toute situation, discriminer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que Épictète donne ces quelques éléments de critères de partage, mais il dit bien que c'est tout le temps qu'il faut s'interroger, répondre. Épictète, et même dans ce qu'on a lu, donnerait des réponses à cette objection. La première réponse, c'est que savoir, dans les situations que l'on vit, discriminer ce qui dépend de nous et pas de nous, c'est de l'ordre de la sagesse et pas du savoir. Essentiel. De l'ordre de la sagesse et non pas de l'ordre du savoir. Le deuxième point, c'est qu'il s'appuie, il le rappelle implicitement sur Socrate. Or, Socrate, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que je ne sais rien. Le savoir, et Socrate est le premier à développer cette affirmation forte, je sais que je ne sais rien. C'est pour cela que, je vais dire un truc qui peut paraître provocant, la culture, c'est de la merde d'une certaine manière. C'est-à-dire que.
Si tu dis que c'est la merde, c'est provocant, hein, c'est sûr. Hein. Là, c'est...
J'entends par là la culture comme on l'entend trop souvent, une accumulation. Il dit, là, je rappelle le texte, ça ne sert à rien de se dire philosophe et de discourir de thèses philosophiques. Ce qui importe, c'est ce qui s'ensuit. Ce qui s'ensuit, c'est. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un. Faut manger comme ça, la fourchette est là, faut manger proprement comme ça, comme ça. Non, il faut le faire. Il faut manger comme il faut. Il ne faut pas discourir sur le fait qu'il faut manger comme ci ou comme ça. Ça, c'est un premier point. L'autre point, toujours par rapport à ce que tu dis, c'est que si on admet qu'il y a un point de départ essentiel, que ce comportement moral est commandé par la partie supérieure hégémonique de l'âme, cette partie du jugement qui renvoie au logos, il faut admettre dans cette perspective de pensée, un autre point, c'est que le logos est universel.
C'est le point de base.
Alors, il est universel. Ça réinterroge sur l'universel. Mais, je crois qu'il faut distinguer, là aussi, la raison comme rationalisatrice, qui n'est pas universelle. Il peut y avoir plusieurs logiques, plusieurs enchaînements logiques, et que les différences de contexte peuvent jouer. Mais là, il faut entendre la raison comme ce qui est de l'ordre du raisonnable. Et je pense qu'il y a une universalité de l'humanité là-dessus. C'est ce qui fait l'humanité. Si on n'admet pas ça,
c'est un postulat.
C'est le danger. Oui, mais c'est plus que ça, parce qu'après, c'est le danger du différentialisme. Et je vous rappelle quand même que le différentialisme poussé à l'extrême, c'est les extrêmes droites et les nazis qui en sont le plus proches. Parce que le différentialisme refuse l'humanité. Si on est dans le différentialisme, par exemple, total, oui, on peut faire ce qu'on veut par rapport aux autres. Le différentialisme, par exemple, ne permet pas de fonder comme un principe supérieur le crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'humanité, donc il n'y a pas,
mais
de crime.
Mais quoi qu'on dise, ça reste un postulat.
Alors, ça se vérifie même anthropologiquement. Et les anthropologues, au fond, le vérifient. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une forme de sagesse dans la vie quotidienne qui est la même du fin fond des Andes au fin fond de l'Inde, au fin fond du Pakistan,
quand tu vois
ou au fin fond de l'Europe.
Non, il y a des habitudes.
Par contre, je pense que... Il y a des comportements humains, des logiques humaines qu'on retrouve vraiment partout sur la Terre et qui renvoient à cette question de raisonnable.
Il y en a des communs.
Après, il y a des variations. Mais il y a un fond commun qui fait qu'on est humain.
Oui, ça définit l'humain.
Oui, qui définit l'humain. Et qui fait qu'on puisse parler d'humanité. Et qu'on... Après, est une autre question que l'humanité est un idéal à atteindre. C'est-à-dire que l'homme peut être inhumain, mais c'est un autre problème. Qui touche justement à la question morale. C'est-à-dire que c'est précisément que là, on touche à la question du bien et du mal, que se pose la question que l'homme peut être inhumain, et souvent être inhumain. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'il y a un fond d'humanité universelle.
Au fond, ce fond d'humanité, c'est le cerveau qui est le même. Ça revient à dire ça, en gros. On a le même cerveau, en gros.
Non, oui, mais ce n'est pas suffisamment cela, parce que là, tu entends la dimension...
L'attitude par rapport aux choses.
Mais ça vient du cerveau, ça.
Alors, je l'aborderai un peu...
Le singe, il n'a pas la même attitude.
Je l'aborderai un peu plus tard. Mais je le dis très rapidement maintenant. Chez les Grecs et particulièrement les Stoïciens, par comparaison, ce qui est humain...
Le choix. C'est l'animus et l'anima de saint Thomas d'Aquin.
Oui, tout à fait. On retrouve ça. Ce que dit Épictète, mais aussi Marc Aurèle et plein d'autres, c'est que l'animal est un être parfait. Et il y a à l'autre bout un autre type d'être qui est parfait, c'est les dieux. La perfection étant définie comme étant un être qui a des qualités, des attributs, des qualités, qui correspondent à 100% à ce pourquoi ils sont faits. Donc, il y a une... Oui.
À notre portée.
L'homme est le seul être qui n'est pas parfait, qui est inabouti. Ouais. Même problème. À une époque donnée d'évolution du vivant, tel animal qui existait était parfait. Non, mais c'est autre chose. Il devient un autre être. Alors que l'homme, il y a un écart entre ce qu'il a à faire sur Terre et ce qu'il est au départ. Sauf que l'homme n'échappe pas à la question
voilà, elles sont là.
Du bien et du mal, de la responsabilité, de tendre vers l'humanité et de diminuer sa part d'inhumanité. Et ça, c'est propre à l'homme. Je suis désolé, ce n'est que propre à l'homme. Et j'en parlais allusivement hier. Il y a un film. Alors, dans notre période contemporaine, il y avait un autre être. Ça, c'est le christianisme, principalement. Qui incarne une perfection. C'est même la définition théologique, c'est l'ange. L'ange, il est le seul de son espèce. Chaque ange, théologiquement, est une espèce à lui tout seul. Donc l'ange est un être parfait. Et il y a un film qui est génial, qui montre que l'homme, par contraste, que l'homme n'est pas parfait, c'est les ailes du désir de Wim Wenders. Ouais. Voilà un ange qui est parfait. Et le problème, c'est qu'il va découvrir le désir en s'approchant trop près de l'être humain. Et au point qu'il va vouloir... Dans les ailes du désir, d'ailleurs le titre le suggère, dans les ailes du désir, c'est ça.
L'homme désire ce qu'il n'est pas. Ou est-ce que je pollue ton raisonnement ?
Non, oui, c'est pas ça. Si je reste rigoureusement sur les stoïciens, l'homme désire ce qu'il a à être. Doit désirer ce qu'il a à être.
Doit.
Devient ce que tu es.
Alors, l'autre...
Doit désirer ce qu'il a
à être.
Chaque mot est...
Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils se tiennent à cela. Mais c'est précisément, mais on va y venir après, toute la question du stoïcisme.
Il est en
devenir. Ce que tu
par rapport à la bête, à l'animal et le Dieu qui est.
Absolument. Absolument.
Toi, il est en,
voilà.
En mouvement. Voilà.
Ça veut dire, mais ça, si on n'admet pas ça, on ne peut pas s'interroger sur la question morale. La question morale n'est pas pertinente. L'homme est un devenir. Il n'est pas un être. C'est toute la réflexion. Alors, et même les philosophes contemporains ont raisonné là-dessus et ne peuvent pas échapper au stoïcisme. Deux exemples. Sartre. Dans un livre, tout Sartre, c'est ça. L'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça. Ça veut dire rien dire que ça. C'est-à-dire, on est ce qu'on fait, ce qu'on se fait être.
N'est pas vraiment
où on
devient, c'est ça aussi.
Oui. Et Sartre a une formule, une belle formule qui est une métaphore biblique qu'il utilise. Il dit Dieu, quand Dieu va fabriquer l'homme, Dieu a mis l'homme dans le four. C'est comme un pain. Un pain de glaise, on va dire. Il met l'homme dans le four. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va ouvrir le four pour vérifier si. Et il va laisser tomber l'homme. Et l'homme tombe sur terre. Pas complètement cuit. C'est magnifique. Ça, c'est une citation. C'est Sartre qui dit ça. Je ne sais plus.
Ouais.
Mais c'est profondément sartrien. Et c'est profondément stoïcien. Et regardez comment il y a de la sagesse dans les expressions populaires. Quand on dit de quelqu'un, il est complètement cuit. On veut dire par là qu'il est foutu. Si on est cuit, on est foutu. Ce qui veut dire que ce qui nous fait qu'on n'est pas foutu comme homme, non, c'est pas cramé, c'est qu'on est abouti. Ce qui fait qu'on a un homme, c'est qu'on a un devenir, c'est parce qu'on n'est pas complètement cuit. Mais oui, c'est ça, on n'est pas complètement cuit. Donc on a un devenir. Si on était cuit, ben on est cuit. Alors, prêter est dû donner. Ce qui nous est prêté, forcément, ça nous sera repris, il faut le rendre. Ce qui nous est donné, on n'a pas à le rendre. Et ce qui nous est donné, c'est ce qui est à notre portée. Et ce qui nous est donné, c'est Zeus. Épictète a un passage où il explique que Zeus donne à l'homme, non pas le corps, donne à l'homme l'âme et la partie supérieure de l'âme, le logos. En gros. Et ça, Épictète dit très clairement, on n'a pas à le rendre. C'est une parcelle de Dieu, du Dieu, qui nous est donnée. Et c'est ce qui fonde la liberté, précisément. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas une prédestination. Si le Dieu nous donne ça, ça ne dépend plus de Dieu. Ça ne dépend plus d'une volonté extérieure. Parce que la prédestination, c'est qu'on est sous le joug, pour tout, d'une volonté supérieure, extérieure à nous. C'est ça la prédestination. Là, c'est vrai pour tout ce qui n'est pas à notre portée. Ça, ça obéit à une nécessité qui nous échappe. Par contre, ce qui est à notre portée, ça nous a été donné, et là, ça renvoie qu'à notre propre responsabilité et liberté. Et c'est en ce sens-là que sur ce plan-là, il n'y a pas de prédestination. Contrairement à la théorie, aux théories chrétiennes de la prédestination, par exemple. Et en particulier, c'est le point le plus délicat, par exemple, du protestantisme. La prédestination dans le protestantisme pose problème. Enfin, à mes yeux, philosophiquement. Parce que si on pousse l'idée de prédestination, ce qui nous a été prêté ne nous appartient pas. Si ça nous est repris, c'est qu'on l'a rendu. Et on le rendra forcément. Tout ce qui est un prêt, on doit le rendre. Ah, mais pour les stoïciens, c'est pareil. Parce que là, on ne doit pas, c'est de l'ordre de la morale, on est d'accord. Il est bien ou il est mal de. Mais comme la morale est liée au logos, on n'a pas de raison. Ça, c'est la formulation logos. Mais c'est la même chose. Donc les deux formules dans le stoïcisme sont équivalentes.
La question, ce serait quoi le rendre ?
Eh bien, par exemple, mon corps n'a été prêté. La mort fait que j'ai rendu mon corps.
Mais là, même c'est amélioré, ça ne va pas rendre.
C'est
amélioré, on l'a dit, elle ne va pas
rendre. C'est de toi, ça relève de, oui, que ça de toi. C'est ta maîtrise, ta liberté. Oui. C'est le don qui t'a été fait initialement. Et les meilleures interprétations pour montrer qu'il y a des liens entre tout. De la scène biblique qui a été, à mes yeux, pervertie par l'exégèse chrétienne et islamitaire. De la chute d'Éden et du péché originel. Vous savez l'histoire, c'est la faute des femmes. Tout est de la faute des femmes. Ève est sous l'emprise du serpent. Elle croque la pomme et elle en fait croquer à l'homme. Et elle transgresse l'interdit divin, sanction, expulsion de l'Éden. Et à partir de là, le travail comme tripalium, comme torture, comme peine, etc. Cette scène qui amène la culpabilité humaine dans le sens négatif, parce qu'à mes yeux, il y a un sens positif que Lévinas a abordé de la culpabilité. Mais là, le sens le plus négatif de la culpabilité, c'est ce qui pèse sur tout l'Occident européen, en fait. Cette scène, elle peut, légitimement, en termes d'exégèse, être lue complètement différemment. Et c'est la lecture d'un Sartre, par exemple. Si on considère ces textes, comme un bien de l'humanité, un bien de sagesse, on peut interpréter ça tout à fait différemment. L'arbre, le pommier. Vous savez d'ailleurs que c'est des traductions latines qui est qu'en latin, pommier et fruit, c'est le même mot. Donc c'est un arbre fruitier. C'est pas un pommier spécialement. Peu importe. C'est l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. L'autre arbre, c'est l'arbre de la vie. D'accord ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que l'interdit, c'est que tu ne dois pas toucher à cela. C'est le régime humain premier de l'innocence première. C'est le régime humain de la perfection. Alors, pas animal, mais angélique. L'homme est un ange. L'homme, quand il est dans l'Éden, c'est un ange innocent. Il est parfait. Nous sommes tous des gens à ce stade-là. La chute, en fait, c'est quoi? C'est l'introduction de la liberté. C'est la liberté, c'est-à-dire que l'arbre de la connaissance, manger de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, c'est l'avènement à la conscience, précisément, qui permet de distinguer entre le bien et le mal, donc la question du choix, la question du jugement entre ce qui est à notre portée et ce qui n'est pas à notre portée, c'est ça, c'est la liberté, c'est l'avènement de la liberté. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la liberté, et Sartre l'avait parfaitement compris, comme une condamnation. La liberté, c'est une condamnation. C'est s'emmerder la vie. La liberté, c'est s'emmerder la vie. C'est pour ça que tant d'hommes ne veulent pas être libres. Parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder la vie. Et c'est ce qu'avait compris la Boétie dans son petit livre de la servitude volontaire. Les hommes préfèrent être volontairement serfs. Ils sont librement non libre. On se fait librement servile. C'est confortable.
Et si on va plus...
La présentation, le rappel, la présentation du plan du manuel. Donc, une deuxième partie importante, mais encore une fois, il y a toujours des allers-retours. Hein. Ce n'est pas linéaire. C'est plus un plan à voir comme des couches de texte que des parties linéaires. Hein. Un ordre chronologique. Un deuxième plan extrêmement important, c'est tout ce qui touche à l'hégémonicum de l'âme, à la partie supérieure de l'âme, tout ce qui touche précisément au jugement, au logos, c'est à tout ce qui est de l'ordre des représentations que l'on a. La troisième partie va toucher à la question du désir ou de l'aversion et des passions, etc. Et la quatrième partie, donc, touchera à ce qui est de l'ordre de l'impulsion à agir, de l'agir ou, à l'inverse, du non-agir. Et ça va poser des questions du type « Quand faut-il agir ?» Quand faut-il ne surtout pas agir? Question importante. Et c'est là qu'on sera renvoyé à une notion centrale dans la Grèce antique, sur laquelle je reviendrai, c'est une notion que j'aime beaucoup, le sens du kairos. K-A-I-T-R-E-M-A-R-O-S. En transcription. K-A-I-T-R-E-M-A-R-O-S. Le kairos. Le kairos, le sens de kairos, c'est ça qui nous dit quand il faut agir ou quand il ne faut pas agir. Le kairos, c'est quoi? C'est le bon moment. Le bon moment. On y reviendra. Et il y a une espèce de partie conclusive, mais en fait qui n'est même pas conclusive, qui traverse tout et qui est à la fin. C'est les conseils. Les conseils, c'est vraiment formulé comme conseils spécifiques donnés aux destinataires du manuel, c'est-à-dire à ceux qui veulent progresser, à ceux qui veulent devenir philosophes, sachant qu'il n'y a pas de philosophe. On tend vers... Les philosophes, c'est les amoureux de la sagesse. D'accord ? Mais atteindre la sagesse, être pleinement philosophe, c'est le cap de la progression. Mais le cap, est-ce qu'on l'atteindra? Je rappelle, et Épictète le rappelle, Socrate lui-même disait « Je ne suis pas philosophe. » Sous-entendu, je n'ai pas atteint le cap.